des diamants, de l'or, des métaux, de si belles ressources que l'homme utilise en créant de si grosses catastrophes. C'est au Guatemala, au Salvador ou encore au Chili, parmi tant d'autres pays du monde, que l'industrie minière détruit des vies, des communautés et des ressources. Tout ça en toute impunité, ou presque. Et pour lutter contre ce fléau, des défenseurs des droits humains se battent au jour le jour, mais triment plus que toute autre chose. Défenseurs des droits humains. C'est un terme assez large et flou qui regroupe en réalité plusieurs professions. Avocats, activistes ou encore journalistes. Et sur les questions minières en particulier, leur rôle est de permettre aux personnes de protéger leur territoire, leur intégrité physique et leur permettre aussi d'être entendus dans leurs décisions, mais pas seulement en tant qu'individus, mais en tant que collectivité. La difficulté principale pour ces personnes et pour les victimes de l'industrie minière en Amérique latine, ce sont deux mastodontes que le défenseur des droits de la personne et chargé de projet pour l'Amérique latine à l'entraide missionnaire, Gerardo Aikel, nous décrit tout de suite.
Ils sont en train de lutter contre deux monstres. Un monstre qui s'appelle la transnationale, qui ça peut être une compagnie minière canadienne, mais l'autre, le plus gros, c'est l'État. L'État national, le gouvernement du Mexique, le gouvernement du Chili, le gouvernement de l'Argentine, le gouvernement de Colombie, sont très liés par, soit par des traités, la corruption. La compagnie va faire un investissement, le gouvernement il va faire la répression. Il va envoyer la police, il y a les agents secrets, il y a des gens qui volent, des ordinateurs, il va espionner. La compagnie aussi les fait. Il y a des cas très marquants en Argentine qui ont été découverts d'espionnage des militants. La plus grande difficulté, c'est de se trouver face à deux entités qui sont plus grandes que nature.
On ne parle pas de petits détails dans l'humanité. On parle de viols, de disparitions, de meurtres, de violences et de coupures dans les ressources de villages entiers. Les exemples se multiplient d'ailleurs ces dernières années, alors pour soutenir le travail des défenseurs de droits humains, il existe ce que l'on appelle des accompagnateurs internationaux. Laurence Guénette, coordinatrice du projet Accompagnement Québec-Guatemala, ou PAQG, nous parle justement de leur fonction en cas de violence.
La raison pour laquelle la présence internationale peut avoir un effet dissuasif est en quelque sorte fondée sur un racisme qui existe. Normalement, les crimes qui sont commis à l'endroit de personnes guatémaltèques restent la plupart du temps dans l'impunité et les mouvements sociaux sont extrêmement criminalisés. Par contre, quand il y a des observateurs internationaux, ça peut empêcher un peu cette impunité, ou c'est-à-dire que les menaces, les agressions pourront pas être nécessairement mises en pratique devant les accompagnateurs internationaux. Mais si elles le sont quand même, les accompagnateurs internationaux sont là pour avoir vu les événements et les rapporter et les dénoncer au plan international.
Un exemple assez récent illustre cette situation. En mai dernier, à La Puya, au Guatemala, une éviction assez violente a eu lieu contre une communauté qui résiste face à un projet d'entreprise minière canado-américaine. Un exemple qui n'est pas isolé au Guatemala.
La communauté qui était en résistance contre un projet minier là-bas a été évincée de façon très violente sous le regard de quelques accompagnateurs internationaux qui étaient présents et présentes. Et malheureusement, ça n'a pas empêché l'éviction de survenir. Par contre, il y avait ces accompagnateurs-là pour prendre des notes, avoir une présence visible, pouvoir ensuite contribuer à diffuser la vraie information à l'international. Donc de façon alternative à l'information qui est apportée par les médias de masse guatémaltèques, par exemple.
Et vous vous doutez bien que face à toutes ces initiatives, il existe de plus grandes embûches.
Les gens qui ont beaucoup de pouvoir au Guatemala essaient de nous discréditer. Ça passe par de la diffamation dans les médias, associer les accompagnateurs à des termes qui sont péjoratifs pour l'opinion publique, comme communistes, gens qui s'opposent au développement. Par exemple, le ministère de l'Intérieur du Guatemala, il n'y a pas si longtemps, disait dans un discours public qui était diffusé sur tous les médias de masse guatémaltèques que là, les étrangers qui viennent ici mettent le bordel, puis créent des conflits dans les communautés, il va falloir que ça arrête. Puis pour leur part, les défenseurs de droits humains guatémaltèques subissent beaucoup plus de difficultés que nous, évidemment. Donc, ça passe de façon générale par le contexte d'impunité. C'est une énorme proportion. Les chiffres varient entre 80 et 90 des crimes graves au Guatemala ne sont jamais punis. Nombre d'entre eux font même pas l'objet d'une enquête.
Mais alors, vous me direz, c'est quand même bizarre. Il existe pourtant des lois internationales faites pour éviter toutes ces violences. Eh bien, ne cherchez pas plus loin. Elles ne sont tout simplement pas respectées. et le Canada reste assez muet sur cette problématique. Alors comment fait-on pour avoir du poids si les lois ne servent à rien ? Pour Grégoire-Étienne Roy, chercheur en développement international à l'UQAM, spécialisé dans l'étude de la gouvernance du secteur minier et des problématiques de droits humains en Amérique latine, ce travail des défenseurs des droits de la personne doit être une priorité du gouvernement canadien pour qu'une solution émerge.
Les droits humains sont des principes absolus et non négociables. Et c'est ce point de départ-là qui devrait informer les politiques canadiennes en matière du secteur minier. Pour l'instant, ce qui informe, c'est l'intérêt économique canadien. On introduit la question des droits humains comme une manière de pallier liés aux dommages collatéraux. C'est pas, à mon sens, l'approche qui va donner des bons résultats. L'autre partie du problème, c'est que les gens, il faut concevoir le problème à partir du point de vue des gens qui sont directement affectés. Ce sont les communautés, en grande majorité, des communautés autochtones. I know you're gonna dig this. La priorité de l'État canadien, du gouvernement canadien, devrait d'abord et avant tout de préserver la capacité de ces gens-là de faire entendre leur point de vue. À mon sens, ce sont les premiers pas. Maintenant, il faut faire preuve de vision, je pense, et de courage politique, prendre les mesures qui s'imposent. Ce ne sont pas des détails, on parle de la vie des personnes. Donc, l'argument de l'intérêt économique n'est pas recevable.
Petit rappel, les trois quarts des industries minières en Amérique latine sont basées au Canada. Alors de la vision et du courage politique serait effectivement une avancée. Mais concrètement, au-delà des violences, comment s'illustre le problème de l'implantation d'industries minières en Amérique latine ? Gerardo Aikel nous donne un autre exemple à Pascualama, une région du nord du Chili, à la frontière avec l'Argentine.
Trois fleuves nourrissent la vallée, qui est une vallée qui produit des raisins pour l'exportation, l'agriculture, mais qui a une pluviométrie de 50 mm par année. Ici, à Montréal, dans deux jours, on peut avoir la pluie qui est à cette région pendant une année. Très sec. Et ces fleuves sont nourris par trois glaciers. Et ces trois glaciers ont été mis en danger, dont un il a déjà été détruit par la compagnie Barrick Gold. Il y a une communauté autochtone aussi qui est propriétaire de la terre, puis qui n'a pas donné son accord collectif pour que cette mine existe. Au contraire, ils s'opposent à ça parce qu'ils savent que cette mine, qui est une mine d'or à ciel ouvert, va détruire les glaciers qui nourrissent les fleuves. Il y a à peu près 300 mètres de glaciers d'eau potable et c'est ça qui va être aussi détruit. Ça prend des millénaires pour les recréer.
Vous l'aurez compris, l'objectif principal des défenseurs des droits humains face à ce combat, c'est de dénoncer et de rétablir la justice grâce à des enquêtes. Miguel Edgardo Mira López, directeur du Centre d'investigation sur l'investissement et le commerce au Salvador, nous explique comment il opère avec son organisme.
Ce que nous avons fait, c'est démontrer aux autorités policières la nécessité qu'il y ait une enquête exhaustive pour déterminer qui sont les véritables responsables de ces assassinats. Une chose est certaine, depuis l'arrivée de ces entreprises dans cette zone, un climat de conflit social règne, généré par l'intérêt des entreprises d'exploiter les mines sans aucune considération pour les populations locales. Nous avons dénoncé la situation et voulons une enquête pour savoir si ces entreprises ont été impliquées ou non dans ces événements.
Objectif aujourd'hui, mettre les solutions en commun et se réunir à travers des colloques ou au tribunal récemment créé, le tribunal permanent pour les peuples. C'était un reportage d'Émilie Lamine pour CIBL 101.5 Montréal. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo